France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les midis de culture à 13h. Je recevrai Valeria Bruni-Tedeschi. Elle incarne Sandra, une quinquagénaire qui se retrouve soudain en charge d'une famille dans le nouveau film de Karine Tardieu, L'Attachement. Mais dans les midis, vous le savez, tout commence par la critique. Au programme aujourd'hui de la poésie, Le Russe comme nom maternel de Pavel Arsenev, paru aux éditions Van Loo. L'auteur est né à Leningrad. Il est aujourd'hui exilé à Marseille, où il se fait entendre comme une voix contestataire. Puis ce sera ce que vous trouverez caché dans mon oreille de Mossab Aboutoua chez Julliard. Lui, il est né à Gaza, il vit aujourd'hui aux États-Unis et raconte les décombres et l'espoir des Gazaouis. Et ce midi avec moi pour parler poésie, j'accueille Romain de Becdelièvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dramaturge et producteur sur France Culture. Et Johan Ferber, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes éditeur, essayiste et critique littéraire. Bienvenue à tous les deux. Alors Pavel Arsenev est poète, mais aussi artiste et chercheur. Tout commence d'ailleurs dans ce livre par un texte introductif théorique où il pose les idées maîtresses qui structurent sa pensée. Sa poésie cherche à matérialiser le texte, il travaille pour ça les aspects graphiques, ou alors il transpose sa poésie sur scène dans des lectures-performances. La langue comme matière, mais le nœud du propos est dans le titre, le russe comme langue de naissance, se revendique ici comme non maternelle, comme purement administrative. S'il se défend d'avoir écrit un texte lié à l'actualité géopolitique, il chemine aux côtés de toute une génération de poètes russes résistants. Alors un premier avis en quelques mots. Johan, quel est votre premier ressenti de lecture ?
Eh bien, mon premier ressenti de lecture, c'est que j'ai été durablement impressionné par la manière dont précisément la langue était interrogée, questionnée. On sait que la poésie, elle est souvent réputée pour être l'art par excellence du maniement du langage. Et là, précisément, il y a un effet d'étrangeté, un effet de défamiliarisation et un effet, en fait, de désappartenance à sa propre langue qui transforme la création artistique, en fait, ici, en une manière de création politique et critique continue où on joue justement à sortir du jeu du langage pour questionner une manière de vérité à soi et d'exil politique dans lequel le poète est contraint malgré lui à faire le deuil de sa langue. Je trouvais que ce recueil poétique est absolument remarquable.
Et vous, Romain, même exercice, est-ce que cette poésie de Pavel Arsenev a résonné en vous ?
Oui, alors c'est un objet littéraire très très particulier qui est aussi, quand on parle de poésie, on a souvent l'imaginaire de la poésie lyrique, de quelque chose d'évocatoire, d'incantatoire comme ça. Là, c'est une poésie qui est plastique aussi beaucoup, qui fonctionne par installation, par montage, par collage, et qui travaille vraiment la langue au centre, et donc c'est très très désarçonnant, et en tout cas c'est aussi un document sur actuellement le statut de la langue en Russie, oui.
Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ce texte.
Parole d'Oleg. D'un côté, tu vois, je n'étais pas mûr à l'époque. Et maintenant, peut-être un peu. C'est pour ça qu'il faut trancher une fois pour toutes. Il faut être marginal. Tous les bénéfices que peut nous rapporter le travail intellectuel, on y a tous déjà goûté. Pas complètement, mais un peu. On les a eus sur le bout de la langue. Alors voilà, il est temps d'être marginaux. J'en suis sûr, c'est ça, marginaux.
Merci à Louis Cosnard pour cette lecture. Johan, revenons au titre, peut-être pour commencer cette critique. Comment comprenez-vous le russe comme nom maternel? Moi, j'ai toujours l'impression qu'en le disant, qu'il manque le mot langue.
Oui, effectivement, c'est comme un titre troué, et c'est bien l'enjeu de tout l'ensemble de cette poésie, à savoir une langue maternelle qui devient nom maternel. Ce russe comme nom maternel, en fait, c'est un élément classique, on va dire, de la démarche administrative que devaient observer tous les pays des républiques soviétiques qui, ne parlant pas en langue natale le russe, étaient contraint de s'exprimer dans un russe qui était en fait une langue administrative. C'est des effets, on va dire, d'ordre de la langue, où effectivement il faut qu'il y ait une sorte d'unification du territoire par une langue qui est majoritairement parlée, une langue administrative. Et ici, justement, c'est le matériau même du poète qui est questionné, celui de la langue, et le poète est contraint de faire le deuil de cette langue parce que, en fait, continuant à parler le russe, il voit que le russe lui désappartient, si on peut parler ainsi. Et cette désappartenance, ce qu'on pourrait appeler cette défaisance, devient finalement pour lui une grande question, parce que comme on le verra aussi pour le prochain recueil dont on parlera tout à l'heure, en fait, c'est une poésie qui ne s'écrit pas en russe. C'est une poésie qui est effectivement non maternelle, puisque en fait, elle est écrite directement en français. Voilà.
Et donc il passe par une nouvelle langue, par sa langue d'exil, pour parler de sa langue maternelle, mais qui ne l'est plus.
Voilà, c'est-à-dire que la langue d'exil devient une langue, alors elle n'est jamais qualifiée comme langue d'emprunt, elle n'est pas revendiquée, ça c'est aussi frappant, et elle devient finalement une manière de deuil qui permet en fait un recul critique et qui permet de constituer le poème comme un objet à la fois formel et non formel, c'est-à-dire un lieu d'interrogation de ce qui désempare le poète, une manière de questionner aussi ce qui est l'outil majeur du poutinisme, hein, puisque c'est le cœur aussi de ce propos, c'est une poésie extrêmement politique, c'est à savoir la propagande et ce qu'on appelait depuis Orwell la novlangue, et qui est une novlangue en fait qui se retourne contre soi, c'est une sorte de contre-révolution, hein. Voilà. Et par exemple, le mot révolte est un problème puisque il ne signifie plus rien.
Romain, quelle trace trouve-t-on de l'artiste Pavel Arsenev dans ces pages ? Est-ce que vous sentez, vous, poindre l'acte performatif quand on lit le texte ?
Oui, ça démarre immédiatement, c'est-à-dire au début du recueil, il va copier-coller un diplôme. Donc le diplôme de cette langue, qu'on appelle le russe comme nom maternel, enfin, il est traduit comme ça, c'est un peu, alors il fait la comparaison avec le français langue étrangère, mais c'est pas exactement ça en fait. C'était donc le russe qu'on apprenait aux pays satellites de l'Union soviétique, et ce qu'il explique, c'était une manière de maintenir une distinction entre le russe et vous, qui serez jamais vraiment russe, quoi. On vous enseignera une langue un peu bâtarde, un peu abâtardie, et parmi ces républiques socialistes satellites, il y a l'Ukraine évidemment. Et
donc une langue amoindrie.
Donc une langue amoindrie, ouais, une langue aussi le russe comme instrument de pouvoir et de domination. Et donc dans ce diplôme dont je parlais, il cite deux membres de l'université et il y a en note de bas de page que ces gens ont soutenu l'agression de la guerre de Poutine en Ukraine. Donc immédiatement, il met la question de la langue et de comment on la parle sous quelque chose de l'ordre de la politique. Et donc, ça fait un recueil extrêmement hétéroclite où la question de la langue est centrale, la question de qui parle. On n'arrête pas de se poser la question dans les poèmes, qui parle. Il y a des propos rapportés qui sont des propos de ses amis, des amis dont on sent qu'ils sont en exil, c'est pas forcément explicité. Il y a des installations artistiques.
Par exemple, vous pouvez nous en décrire une ?
Il y a une espèce d'objet qui est très étrange, qui reproduit, alors de ce que j'ai compris, parce que c'est un peu cryptique, j'ai dû relire plusieurs fois le recueil. C'est un artiste qui reproduit une espèce de langue nationaliste et une espèce de propagande de Poutine qui va tellement loin. Ça va jusqu'à dire que Pushkin, qui est donc le fondateur du russe littéraire, entre guillemets, est d'origine étrangère. Donc, ça pointe en gros l'aporie du nationalisme et d'une manière à la fois flagrante, c'est-à-dire on voit la pureté de la langue russe n'existe pas en fait. C'est-à-dire elle vient d'un étranger qui s'appelle Poutine. Pushkin.
Oula. C'était un lapsus.
Changez tout, on coupera au montage de Pushkin. Et du coup, ça montre à la fois donc le nationalisme qui est complètement abstrait dans sa langue, dans l'idée d'un russe pur, et en même temps c'est terrifiant quoi.
Mais est-ce qu'on sent, on sait qu'après ils ont fait de ces recueils-là des performances, donc ça va sur scène. Est-ce que quand vous lisez, vous voyez l'acte performatif à venir ? Ou est-ce qu'on l'entend quand on le lit chez soi, ce livre-là ? La possibilité de la scène, de l'oralité derrière ?
Oui, il y a des tons qui sont très très différents. Il y a des tournures orales. Mais c'est vraiment... Enfin, la question qui est intéressante aussi, c'est qu'il réfléchit beaucoup à l'avant-garde, en fait. C'est-à-dire, c'est un objet d'avant-garde et qui réfléchit aussi à l'avant-garde au sens où il y a un moment qui est très très intéressant, par exemple, où il parle de la mort de l'art, cette topic de la mort de l'art, aujourd'hui la poésie a disparu, etc. Et très frontalement, il va poser la question pour les dissidents russes qui sont aujourd'hui poètes. Est-ce que vous allez leur parler de la mort de l'art ? Enfin, il a comme ça des espèces d'inclusion frontale aussi du conflit politique dans la langue et dans la question de la littérature aujourd'hui. Et c'est des questions qui sont brûlantes actuellement.
Johan, est-ce que cette langue russe qui devient incapable de poésie, c'est pour l'auteur un acte de résistance ?
Oui, en fait, lui, ce qu'il essaie de faire du titre d'un poème, c'est échapper à la servitude. Et donc, en fait, sa poésie, elle est prise en fait dans un mouvement où il est désemparé, c'est-à-dire ce russe qui devrait lui appartenir, en fait, ne lui appartient plus. Et ce mouvement de désappartenance fait que il va se questionner sur la manière dont les autres parlent. Hein. C'est ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paroles qui circulent. Et je dirais que la poésie, elle a deux outils poétiques majeurs. Un premier, qui est de l'ordre de la performance, c'est le montage. C'est une poésie de montage de voix, de, on peut le dire, mais ce que je vais dire, appauvrit un petit peu la richesse du texte, un texte de polyphonie, mais une sorte, je dirais plutôt que polyphonie, une sorte de polylogue, c'est-à-dire énormément de voix parlent, énormément de voix cherchent en fait à entamer un mouvement de révolution, et de révolution en fait au titre étymologique, c'est-à-dire la révolution, le mouvement, et donc c'est un texte qui est tout en mouvant, dont on ne peut pas assigner en fait les origines énonciatives, elles échappent, on a beau relire le texte, à mon sens, est construit pour que les origines des voix échappent, et le deuxième point, qui pour moi est fondamental, après le montage, c'est la question de l'enjambement. C'est vraiment un texte qui fonctionne sur l'enjambement, c'est-à-dire une question de vitesse, c'est une poésie qui est formelle, mais aussi qui va très vite, il y a des questions de vitesse, de ralentissement, et ces questions de vitesse et de ralentissement montrent justement que la poésie cherche à soulever en fait une manière de réaction très vive. Et elle cherche à la soulever à partir d'un élément manquant dont on parle depuis le début, qui est le russe, et qui est totalement invisible, sauf à l'état de traces iconographiques que sont les documents en cyrillique. Et ces documents en cyrillique, c'est la seule trace d'un russe comme nom maternel, mais dans un effet, je dirais peut-être de double étrangeté pour nous. Moi, je ne lis pas le cyrillique. Ma mère est d'origine yougoslave, mais elle est partie de Yougoslavie juste avant d'apprendre le cyrillique. Donc moi, je ne lis pas le cyrillique. Et pour nous, ça apparaît comme des documents d'un autre temps. Mmh. Et tous ces documents iconographiques sont présentés sur la page comme des photocopies en fait administratives. Et je trouve que ça leur donne une sorte de froideur extrêmement, vraiment intimidante.
Je l'évoquais en introduction, mais que nous apprend cette préface ? Est-ce que vous avez été sensible, Romain, à ce que l'auteur dote d'un appareil critique son propre recueil ?
Oui,
est-ce que c'est un appareil critique d'ailleurs, je ne sais pas.
C'est pas un appareil critique, mais sans ce préambule théorique, je pense qu'on comprend pas grand-chose au recueil. Enfin, c'est vraiment de le fait de voilà, ces enjeux de langue maternelle dominante, le russe dominé et le russe dominant, quoi. On pourra aller vite. Il fait une comparaison avec le français colonial. D'ailleurs, c'est intéressant. Il dit le français qu'on a enseigné en Algérie, c'était un français non maternel aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire un français qui maintient la distance entre les colonisés et les colons. Après, c'est intéressant, mais. Il a une manière de surprendre aussi tout le temps. C'est-à-dire, il y a un moment où des poèmes sont datés au moment de l'invasion de février 2022 en Ukraine. Et il fait un texte sur son clavier. C'est-à-dire le clavier russe qui ne fonctionne plus. Enfin voilà, il est en exil. Et donc voilà, il va toujours prendre des détours pour trouver une espèce de manière de raconter l'exil aussi, de manière concrète et sensible à chaque fois. Et c'est une poésie qui fonctionne aussi beaucoup par éclat. C'est-à-dire, il y a des phrases qui vous saisissent d'un coup, quoi. Il y a une phrase à un moment qui est en anglais, d'ailleurs. C'est une des paroles de ses amis qui dit « Prose is a privilege. To write it, you need a rented flat ». La prose, c'est un privilège. Pour l'avoir, il faut un appartement loué. Il faut pouvoir louer un appartement. Et donc, il y a aussi toute cette réflexion sur la poésie en tant qu'elle est... parce que justement, il dit que c'est la prose qui est un privilège. Donc, il y a aussi quelque chose, c'est la poésie qui permet de circuler, quoi.
Johan, le poème, on le sait, c'est un espace fragile, certainement le plus exposé de toute la littérature. Choisir justement cette forme-là, parent pauvre de l'édition et du lectorat, malheureusement, pour partager son engagement politique, ça vous paraît cohérent ?
Oui, parce que si c'est le point le plus accompli du travail sur le langage en littérature, on voit ici que la poésie, c'est l'espace aussi d'une perte d'authentification à soi. Ce qui est beau dans cette préface, qui effectivement, sans cette préface, on perdrait vraiment le sel de ce recueil, il parle d'une poétique de la désauthentification, et cette poétique de la désauthentification, voilà, j'arrive pas à le dire, voilà, comme quoi c'est français non maternel, et à partir de là, lui se pose la question de l'authenticité de ce qu'il va dire. Et cette question de l'authenticité de ce qu'elle va dire le laisse, comme on le disait tout à l'heure, totalement démuni. C'est-à-dire que on voit que que le poème essaye de rattraper le retard qu'il a à la fois sur la réalité et sur la langue. Et donc, cette poésie devient un espace très précaire, très fragile, un espace finalement comme une ruine de guerre. Il y a un caractère aussi ruiniforme qui n'est jamais revendiqué comme tel, mais qui, pour le lecteur, apparaît finalement comme une manière de poésie ruiniforme qui questionne ce qui reste du langage en nous, et peut-être au-delà du russe, au-delà du français, au-delà de l'italien, puisqu'il écrit aussi en italien, faire partager une sorte de sentiment au monde qui serait un sentiment de la langue.
Romain, juste un dernier mot pour conclure. À qui s'adresse cet ouvrage ? Vous disiez qu'il n'était pas si simple à appréhender. Est-ce qu'il faut être un lecteur averti de poésie pour s'y plonger ?
C'est possible. Après, il y a la préface qui éclaire beaucoup et qui est aussi une entrée un peu didactique d'une certaine manière. Oui, c'est faut peut-être y reprendre plusieurs fois pour le lire, mais il y a aussi une ça offre une saisie aussi sur ce que c'est que le discours poutinien aussi. Et c'est un document qu'on a assez peu souvent l'occasion de. Enfin, on a assez peu de prise là-dessus.
Le russe comme nom maternel de Pavel Arseneff eh bien, est disponible aux éditions Van Loo. Suite de notre débat critique poésie aujourd'hui, on poursuit notre exploration des poètes en exil avec le premier recueil de poèmes de Moussa Babouto écrit avant le 7 octobre et publié chez Julliard. Il s'intitule « Ce que vous trouverez caché dans mon oreille ». Ce livre a reçu en 2022 le Palestine Book Award. Il raconte les peines et les joies des habitants de Gaza dans une forme poétique qui flirte parfois avec le reportage, mais qui provoque, je crois, au lecteur de grandes émotions. On écoute un extrait lu par Marceau Vassy et puis bien sûr après l'avis de nos critiques.
Où est mon pays ? Il est dans l'ombre des arbres, sur le chemin de l'école avant qu'il ne soit déraciné. Il est dans la photo en noir et blanc du mariage de mes grands-parents avant que les murs ne s'écroulent. Il est dans le tapis de prière de mon oncle où des dizaines de fourmis dormaient pendant les nuits d'hiver avant qu'il ne soit pillé et mis dans un musée. Il est dans le four où ma mère faisait cuire le pain et rôtir le poulet avant qu'une bombe ne réduise notre maison en cendres. Il est dans le café où j'allais regarder les matchs de foot et jouer au... Mon fils m'interrompt. Mais comment un petit mot de 4 lettres peut-il être dans autant de choses à la fois ?
Voilà, c'est un des poèmes qu'on retrouve dans ce recueil de Moussa Babouto. Romain, en quelques mots, est-ce que vous avez été ému par cette poésie-là ?
Oui, absolument. C'est un recueil qui est totalement bouleversant sur la vie, la survie et les formes de vie à Gaza. C'est une poésie qui tient du reportage, vous l'avez dit, et qui va au-delà de l'horreur tout en la racontant.
Johan, pareil, vos premières impressions ?
Ah oui, j'ai été complètement bouleversé par cette poésie qui a une très grande qualité, c'est qu'elle cherche à toucher directement l'émotion, les sentiments, en privilégiant vraiment une manière de simplicité, parfois hugolienne, et qui se débarrasse de toute question formelle, et qui cherche justement à mettre en évidence que... vivre à Gaza, c'est avant tout, même en étant à Gaza, chercher où est son pays. Et j'ai trouvé ça totalement bouleversant.
Alors Romain, peut-être pour commencer, comment vous pourriez définir ces textes-là ? À quoi elle ressemble cette poésie ?
Alors, déjà, il faut dire qu'elle est traduite de l'anglais. C'est-à-dire qu'il s'exprime en anglais et non pas en arabe. Donc déjà, ça c'est important. Et formellement, alors il y a des poèmes qui sont assez courts.
Comme celui
qu'on vient d'entendre, qui est un poème en entier. Qui fonctionne un peu comme des éclats. C'est-à-dire, voilà, où est mon pays ? D'ailleurs, ça traduit home, ce petit mot de 4 lettres, c'est en anglais en fait. Il y a des formats plus longs qui s'apparentent vraiment à du récit, de remémoration et avec des images. C'est une poésie qui fonctionne énormément avec des images, c'est-à-dire il va raconter Gaza par des objets, par des détails. Des détails qui peuvent être souvent kafkaïens, il y a Kafka qui arrive un peu, c'est-à-dire des clous plantés dans un mur, il dit les clous ne servent pas à connecter deux choses ensemble, ils ont servi dans une bombe à clous. Les toits sont troués et donc laissent passer la pluie. Enfin, il va remarquer toutes ces choses-là qui fait que tout dans la situation de la guerre... a changé de face et est bouleversant. Il raconte un moment, ça commence par un inventaire aussi, un abécédaire avec plein de mots qui arrivent comme ça, et il raconte que son fils, quand il voit des nuages, des vrais nuages, il pense que c'est la fumée d'un missile, d'une bombe ou d'une explosion. Comment vous voulez faire de la poésie à partir de là, quand les enfants pensent que les nuages sont de la fumée d'explosion ? C'est un peu... tout l'enjeu de ce recueil-là, quoi. Quand les arbres ne poussent plus parce qu'il y a de la poussière, quand les bruits des drones étouffent les bruits des oiseaux, donc ça déterritorialise totalement le territoire lyrique de la poésie, quoi.
Quand j'écoute Romain, Johan, est-ce que vous diriez que ce texte, il se veut aussi comme témoignage, il se prend aussi comme témoignage ?
Oui, je pense qu'il prend le contre-pied de toute la distinction qu'on a depuis bientôt un siècle et demi avec Mallarmé sur l'universel reportage qui était mis de côté. Et ici, je pense que c'est une sorte de documentaire, hein. Je pense que c'est un poème journalistique, hein, au sens très fort du terme, une sorte de reportage sur ce qu'est Gaza et sur ce qu'est Gaza en ruine. Et je crois que parmi les ruines, Céline, il y a deux choses. Il y a d'abord le poème. Le poème est fait, on l'a rappelé à l'instant, d'éclat de ce qui reste. Et ça entraîne une sorte de défamiliarisation. Et cette défamiliarisation, elle passe effectivement par un monde qu'on ne reconnaît pas alors qu'on y est né. Une patrie qui est comme trouée. Et ce monde qu'on ne reconnaît pas dans lequel on est né. Effectivement, il le dit très bien, on l'a rappelé à l'instant. J'ai l'impression de vivre comme dans un roman de Kafka. Et ce roman de Kafka fait que, effectivement, le langage devient lui-même une manière et une matière d'étrangeté. Et je crois qu'il y a une sorte d'hypervigilance dans ce reportage. Et cette hypervigilance, elle passe d'abord par qu'est-ce qui fait mon quotidien ? C'est-à-dire que le quotidien le plus simple est méconnaissable. Et à l'échelle plus vaste, je ne comprends pas ce qu'est la guerre. Je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. Et comme tout à l'heure, il y a une manière d'être désemparé. Et l'usage de l'arabe est confisqué, en fait, par la guerre. Il y a une véritable confiscation de la langue, puisque il se pose à plusieurs reprises la question de savoir où est mon pays, on l'a entendu tout à l'heure, mais aussi où est ma langue et dans quelle langue vais-je raconter mon destin ?
Donc là aussi, il y a une question sur la langue maternelle ?
Elle est centrale, effectivement, une question qui est centrale, parce que c'est une question, en fait, il y a une sorte, on pourrait dire, de disjonction permanente entre la langue et le territoire, la langue maternelle et la langue poétique, et puis, on a toute une série de disjonctions dans les phrases en disant, nous portons bien, mais nous allons mal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on est à la fois mort et vivant. Et c'est à la fois mort et vivant qui sont des formules dites très simplement, finalement, de manière assez hugolienne, comme je le disais tout à l'heure, produisent des effets assez stupéfiants. Moi, j'étais très frappé, en vous écoutant, d'avoir retenu comme vous les mêmes images, c'est-à-dire l'enfant qui confond le nuage avec la fumée de la bombe, l'absence de cuisine. Voilà, il y a plus de cuisine dans les maisons. Ce sont des fantômes, des spectres de maisons. Et à partir de là, je trouve que le sentiment de survie qui est travaillé au cœur de cette poésie fait de ce texte un texte absolument bouleversant.
Romain, je pense qu'on peut dire que dans ce recueil-là, il y a de la narration, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de poésie. Qu'est-ce qu'il apporte, cet acte narratif-là ?
Il est très très fluide, en fait. Il raconte pendant un des bombardements par l'armée israélienne où lui reçoit un éclat d'obus, et ça il le raconte de manière assez linéaire et assez fluide, et en même temps il y a des images qui vous arrivent et qui sont très très percutantes. Mais c'est cet enjeu là aussi, quoi, c'est-à-dire raconter la vie, pour lui c'est raconter la survie, donc c'est immédiatement un enjeu politique. Et donc il y a des images qui sont très très simples, mais voilà, il y a des fleurs qui repoussent sur des décombres, ça s'appelle la survie, et c'est un enjeu politique pour ça. Après, l'émotion de lire ce recueil maintenant, qui donc a été écrit avant le 7 octobre, comme vous l'avez dit, c'est de se dire que voilà, la violence a continué dans des proportions qui sont énormes. Il mentionne un hôpital, j'ai oublié le nom là, dont on sait qu'il a été bombardé et qu'il a complètement disparu. Donc voilà, il y a aussi ce deuxième coup qui est encore plus violent. Il a écrit un deuxième recueil là, apparemment en anglais, qui n'est pas encore traduit en français, j'ai vu. Mais voilà, on sent qu'il a cette urgence là de raconter et de décrire par le menu et par la. Et c'est vraiment une fonction poétique. Il y a Mahmoud Darwish qui apparaît à un moment. Il le traite d'ailleurs avec il y a une petite ironie sur la question du narcissisme. Darwish se regarde dans le miroir, donc c'est assez drôle aussi. Il a des formes d'humour qui sont assez présentes, mais voilà. Et c'est cette manière d'appeler la Palestine comme Darwish le faisait aussi en son temps à l'époque.
Quelle est la place de l'autobiographie dans ce recueil-là, Johan ? Est-ce qu'il parle d'expériences qui lui sont arrivées à lui, ou est-ce qu'il raconte ?
Ah oui, c'est vraiment une poésie qui fait totalement corps avec à la fois le sentiment de vivre, le sentiment de survie, et puis de trouver une sorte, le sentiment autobiographique, c'est le sentiment poétique ici qui transparaît. On le raconte à l'instant, à un moment, cette poésie extrêmement narrative, extrêmement fluide et construite, produit des images d'expérience personnelle. Et son expérience personnelle, c'est comme tout à l'heure, comme on en parlait à propos de Pavel Arseneff, c'est une manière de désappartenance à soi. C'est-à-dire que il raconte comment il voit un attroupement dans la rue. Et cet attroupement dans la rue, d'un seul coup, il dit « je vois une lumière jaune qui me traverse ». Mais il comprend seulement après qu'il vient d'être touché par un obus et par un éclat d'obus. Et il arrive dans cet hôpital dont on parlait à l'instant, qui depuis a été rasé par l'armée israélienne. Et ça produit un sentiment véritablement d'étrangeté à soi, comme on disait tout à l'heure, de désappartenance, de défaisance, où le poète a besoin d'écrire son poème pour comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive. C'est-à-dire que le poème a cette fonction politique de poser clairement le sentiment d'exister encore. Et ce sentiment d'exister encore, ce n'est pas la langue arabe qui lui permet de le faire. C'est vraiment une langue, on va dire, américaine, anglaise, américaine. Et cette langue américaine, elle pose aussi la question de la diffusion du témoignage. Et cette question de la diffusion du témoignage, elle est fondamentale parce que il y a la vocation de cette poésie à être très accessible, simplement accessible, à la fois par la langue, mais aussi par la forme, il n'y en a plus. Le pays n'a plus de forme, les maisons n'ont plus de forme, la poésie n'a pas vocation justement à solliciter un formalisme quelconque. Elle est dans une sorte de geste nu premier dans lequel elle livre toute cette douleur d'exister et cette joie de peut-être parvenir à survivre.
Un tout dernier mot, il nous reste vraiment quelques secondes. Romain.
Sur la question de la famille aussi, la question du grand-père qui revient tout le temps, la mémoire du grand-père et lui-même ses enfants. Est-ce qu'on va pas perdre la mémoire du grand-père et perdre le récit? Il y a l'urgence de cette poésie-là et là-dedans aussi. Ouais.
Ce que vous trouverez caché dans mon oreille est bien apparu aux éditions Julliard. Merci à tous les deux pour vos lectures attentives. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les références et le podcast de cette émission sur la page des Minutes Culture sur le site de France Culture.